France Inter.
Aujourd'hui dans l'affaire sensible, l'affaire Turquin. De ce dossier Turquin, c'est le prénom Jean-Louis qu'on a retenu. Celui de Charles-Édouard, son fils, sa victime, non. Parfois, il est des victimes qui disparaissent deux fois. D'abord quand on les tue, et ensuite quand on les oublie, quand elles finissent par passer au second, puis au troisième plan des affaires qui pourtant les concernent. Charles-Édouard, ce garçonnet de 8 ans, a disparu à Nice en 1991, son corps n'a jamais été retrouvé. Et si c'est le coupable qui a pris toute la place dans la chronique judiciaire, c'est d'abord parce qu'il présentait une personnalité étrange, à la fois accessible et calculatrice, froide. Il intriguait, il inquiétait, à l'image du couple toxique malsain qu'il formait avec la mère de la victime, Michel. Mais ce n'est pas tout. Si l'affaire Turquin est devenue l'affaire Jean-Louis Turquin, c'est pas parce que, fait relativement rare pour susciter l'intérêt, l'assassin a fini assassiné. 20 ans après sa condamnation, Jean-Louis Turquin est retrouvé mort d'une balle dans le dos. 30 ans d'enquête et autant de rebondissements. Un enfant qui disparaît, un meurtre sans cadavre, un coupable qu'on finit par tuer et un assassin qu'on ne retrouvera jamais. Retour sur l'impossible affaire Turquin. Notre invité aujourd'hui, Jean-Pierre Vergès, journaliste judiciaire et réalisateur. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Juliette Proutot, rédaction chef Franck Cognard. Chargé de programme Rebecca Denante, réalisation Stéphane Combe.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
La saison sèche commence en décembre sur l'île de Saint-Martin dans les Antilles françaises. Et si les températures deviennent alors moins étouffantes, on est loin du climat hivernal de la métropole. Ça ne descend jamais en dessous de 24, 25 degrés, même avec les alizés qui soufflent. Et la soirée du 6 janvier 2017 ne fait pas exception. Alors c'est en terrasse que Nadine retrouve ses amis pour fêter son anniversaire dans un petit bar créole typique de l'île, situé à Cul-de-sac, ça ne s'invente pas, à un mot de la partie française de Saint-Martin. Si Nadine n'est pas née sur l'île, elle commence à bien connaître le coin. Ça va faire 7 ans que cette jeune sexagénaire vit là. Et c'est par amour que cette professeure de fitness a déménagé aux Antilles. Oui, qu'elle a laissé sa famille, ses grands-enfants, issus d'un précédent mariage, en métropole. Elle a suivi son époux, un Niçois, qui avait envie de changer d'air. Ça va faire 17 ans que ces deux-là sont mariés. Entre eux, ça a été comme un coup de foudre. Alors, elle l'a accompagné, le couple s'est installé dans une belle maison coloniale, dans le quartier de Mont-Vernon, c'est au nord de l'île. Mais son mari n'est pas avec elle, en ce soir du 6 janvier, non. L'homme est un couche-tôt, peu friand des ambiances musicales bruyantes. Alors ils ont dîné ensemble dans un restaurant gastronomique la veille et ce soir, c'est soirée entre filles. Après plusieurs verres et quelques pas sur la piste de danse, Nadine décide de rentrer chez elle. Il est environ minuit et demi. Elle arrive devant sa maison, le portail est grand ouvert. Ça l'étonne. Elle passe sous les grands palmiers qui bordent le jardin et commence à s'inquiéter. La baie vitrée est ouverte. Il y a de la lumière qui émane du salon et le gros pot de raffia qui coince habituellement le volet a été déplacé. En entrant dans la maison, elle remarque que 2 des 3 chambres ont été fouillées et on entend la télé rester allumée. Nadine s'avance dans la chambre à coucher dont la porte est ouverte. Le corps de son mari gît sur le carrelage, là, étendu sur le dos, dans une mare de sang et d'éclats de verre. Il tient dans sa main un tesson de bouteille. Voilà. On aurait pu ne jamais entendre parler de ce crime. Mais la victime n'est pas n'importe qui. Et l'annonce de sa mort est reprise sur France Inter.
La mort de Jean-Louis Turquin, condamné en 97 à Nice pour l'assassinat de son fils. Il a été trouvé mort d'une balle dans le dos à son domicile de l'île antillaise de Saint-Martin. Vétérinaire de profession, il avait été condamné en assise à 20 ans de réclusion pour l'assassinat de son fils de 8 ans, Charles-Édouard, dont le corps n'a jamais été retrouvé. Jean-Louis Turquin, 68 ans, avait toujours clamé son innocence.
Mais qui a tué l'assassin ? Voilà la question que tout le monde se pose après l'annonce de la mort de Turquin et surtout 20 ans après sa condamnation pour le meurtre de son fils Charles-Édouard. Jean-Louis Turquin rencontre Michel sur les bancs de la célèbre école vétérinaire de Maisons-Alfort dans la banlieue est de Paris. Nous sommes alors en 1972. Elle commence ses études alors que lui, un peu plus âgé, entame sa quatrième année. On le dit brillant et c'est indéniable. Fils d'un représentant en biscuiterie, il a le profil de celles et ceux qui se sont fait tout seuls. Sérieux, rigoureux, il sait pourquoi il est là. Il sait ce qu'il veut. Et puis, il fait plus vieux que son âge, lui qui a déjà perdu tous ses cheveux. Et certains le trouvent froid, hautain. Enfin, il fait sérieux. Mais pas Michel, elle ne le trouve pas hautain. Non, la jeune brune, au regard vif et au tempérament enthousiaste et ambitieux, voit au contraire le charisme, l'intelligence de cet homme. Alors elle craque et elle fonce. Ils se marient 3 ans plus tard, en 1975. Mais si le couple se forme rapidement, Jean-Louis part s'installer à Nice pour ouvrir son cabinet. Michel, elle, en a encore pour quelques années d'études. Alors c'est à distance qu'ils poursuivent leur relation. Ce qui n'a pas l'air de les gêner, puisque quand elle sort de Maisons-Alfort, Michel ne se précipite pas à Nice. Non, elle travaille d'abord en banlieue parisienne. Il faudra attendre 1981 pour que la jeune femme rejoigne son époux et son cabinet dans le sud. Et c'est là que les choses commencent à se dégrader. Car s'ils ont en commun leur métier, s'ils se retrouvent sur une ambition professionnelle, financière, sociale, les deux époux n'ont pas le même tempérament. Ou plutôt, leur caractère s'affirme et les éloigne. Lui devient plus rigide, autoritaire, jaloux. Elle a des envies mondaines, elle veut s'amuser. Ils auraient pu se séparer à ce moment-là, il y aurait eu moins de morts, se dit au passage. Mais, pour des raisons qui leur appartiennent, alors qu'ils s'éloignent, ils s'obstinent. Ils achètent une Bastide magnifique et font un enfant. Sur le papier, ils remplissent toutes les cases de leur milieu bourgeois. Mais leur façade se fracasse lorsque Charles-Édouard, leur fils de 8 ans, disparaît. Une information reprise par nos confrères de France 3 Côte d'Azur.
Madame, Monsieur, bonsoir. Mystérieuse disparition d'un garçonnet de 8 ans à Nice. Charles-Édouard a quitté le domicile paternel il y a maintenant 2 semaines. Depuis, rien, ni nouvelles, ni indices côté enquêteur. Le doyen des juges d'instruction vient d'ouvrir une information judiciaire contre X pour enlèvement. Le récit, André Grandis.
Le mystère s'épaissit autour de la disparition de Charles-Édouard Turquin. Âgé de 7 ans et demi, l'enfant est parti dans la nuit du 21 mars du domicile de son père sans que celui-ci s'en aperçoive. Dès le début, l'enquête s'est dirigée vers les parents en instance de divorce. Le père a été interrogé par les services de la brigade des mineurs, puis relâché. Les policiers s'interrogent et n'excluent pas un enlèvement. Une information contre X pour enlèvement d'enfant vient d'être ouverte.
La disparition de l'enfant expose et explose le couple. C'est toujours le cas quand un drame se produit et que la justice commence à s'intéresser au chapitre de votre vie. Tout y passe, des ratures jusqu'aux plus petites notes de bas de page. Et pour les Turquins, la lecture ne pardonne pas. Car ce que les policiers découvrent en enquêtant sur la disparition de Charles-Édouard, c'est bien plus qu'un couple qui s'est éloigné. C'est un couple qui se sépare, qui se casse. Cela fait des années que, du haut de leur quartier résidentiel cossu, dans leur maison 22 pièces, que Jean-Louis et Michel Turquin se livrent une guerre tordue. Et loin de les avoir soudés, c'est l'arrivée de leur fils qui a signé la fin du ménage, le début des hostilités. Lorsqu'elle apprend en 1982 qu'elle est enceinte, Michel tombe des nues. Elle ne désire pas ce bébé, elle veut avorter. Oui, mais voilà, Jean-Louis, lui, veut un enfant. Et il saute de joie. Alors l'IVG, hors de question. Pas pour des raisons morales ou religieuses, non, mais parce que la case enfant, c'est une case qu'il veut cocher. Il dira à sa femme, si tu te fais avorter, je te tue. Effrayé, Michel cède et poursuit sa grossesse. Pendant des semaines, elle en parle comme d'un cancer dans son ventre. C'est peu dire que l'arrivée de Charles-Édouard se déroule dans une ambiance délétère. D'ailleurs, Michel prévient son mari. À l'arrivée du bébé, ils se séparent. Jean-Louis acquiesce. En vérité, sans y croire vraiment. Mais Michel met sa menace à exécution. Quelques jours à peine après la naissance de Charles-Édouard, le 7 avril 1983, elle s'installe chez des amis. Et si la jeune mère apprend à aimer son fils, de loin. Son mari, lui, s'investit énormément dans son éducation, qu'il encadre de façon stricte, rigide et plutôt sévère. La tendresse, la fantaisie, l'amour, non, tout cela ne fait pas partie du vocabulaire émotionnel de Jean-Louis. Alors, l'enfant grandit dans une sorte d'espace clos entre les murs de la vaste demeure de ses parents, avec pour seul compagnon ses grands-parents, dont il est extrêmement proche. Dans « Faites entrer l'accusé », la sœur de Jean-Louis Turquin parle de cet enfant un peu spécial.
Vous voyez bien que c'était pas un petit garçon qui avait une vie tout à fait normale. Il ne recevait jamais d'autres enfants chez eux. Il n'avait pas de loisirs, hein, en dehors de ses grands-parents qui étaient des personnes âgées, qui n'avaient même pas de voiture, donc qui vivaient dans cette ville-là, isolée du monde. Il était très très isolé aussi des autres.
Et à mesure que l'enfant grandit dans cette ambiance étrange, ses parents s'éloignent. Michel, qui se sent oppressé, surveillé par un mari autoritaire, prend des amants. Elle a envie de s'amuser et ne le cache plus à Jean-Louis. Alors, elle va et vient dans la maison, si bien que le couple finit par mener deux vies complètement parallèles dans la Grande Bastide. Ils ne prennent pas leur repas ensemble, ne se parlent plus. Michel revient sous le toit familial au début des années 90. Elle essaye de soigner ses angoisses avec une thérapie et puis cède aux pressions constantes de son mari qui joue la carte. « Allez, reviens, si ce n'est pas pour moi, au moins fais-le pour le petit. » Mais ça ne tient pas. Au début de l'année 91, elle engage une procédure de divorce. Impossible pour Jean-Louis, impossible. Il n'accepte pas et inonde sa femme de télégrammes et de lettres pour la persuader de revenir. Ayant appris que Michel avait un amant juif, et pour prouver sa détermination à reconquérir sa femme, le vétérinaire décide même de se circoncire tout seul dans son cabinet. Mais Michel tient bon. Elle déménage chez une amie, laisse la garde de Charles-Édouard à son mari. Un rendez-vous de conciliation de divorce est fixé au 4 avril 1991, 15 jours à peine avant la disparition de l'enfant. Dans l'une des dernières lettres que Jean-Louis adresse à sa femme, il lui pose un ultimatum. Elle doit revenir à la maison avant le 20 mars minuit. Sinon quoi? On ne sait pas. Mais le 20 mars, à minuit, c'est la veille de la disparition de son fils. Alors pour Michel, l'auteur du kidnapping, et peut-être de la mort de Charles-Édouard, c'est son mari, c'est sûr. Elle le chuchote d'une voix brisée à nos confrères d'Antenne 2.
Peut-être que mon mari l'a mis à l'étranger pour...
Aujourd'hui, vous croyez quoi?
Je dirais que aujourd'hui, je crois qu'il est mort et je crois qu'il est peut-être n'importe où. Là aussi, je voudrais bien qu'on puisse lui offrir une sépulture décente, quelque chose de...
Après quelques semaines d'enquête, tous les regards se tournent donc vers Jean-Louis Turquin. D'autant que le vétérinaire était seul avec son fils la nuit de sa disparition. Le 21 mars, Charles-Édouard passe la journée avec sa mère. Elle le ramène avant l'heure du dîner, comme prévu, et passe ensuite la soirée et la nuit chez les amis. Et comme d'habitude, père et fils se couchent tôt. Ils dorment dans la même chambre, parce que depuis la séparation de ses parents, le petit a peur de dormir seul. Alors il s'allonge dans le petit lit installé juste à côté de celui de son père. Ils sont presque collés, avec leur couverture et de ce lit molletonné, assorti. Jean-Louis ferme la porte de la chambre, éteint les lumières et s'allonge dans le lit, une place à côté de son fils. Bien, il est environ 7h30 quand le père se réveille. Mais à ses côtés ce jour-là, le lit est vide. Il arrive que Charles-Édouard se réveille un peu plus tôt et aille s'occuper du chien auquel il tient énormément. Alors, le vétérinaire se lève et fait un tour de la maison, puis du grand jardin. Personne. Il va voir ensuite du côté des grands-parents qui vivent juste à côté, chez qui son enfant passe le plus clair de son temps. Mais là encore, personne. Et c'est là qu'il prévient la police. Au début, il est convaincu qu'il s'agit d'une fugue. Il l'explique à un journaliste de TF1.
En réfléchissant, je pense que... c'est une fugue qui s'est probablement mal terminée. J'en ai vraiment l'impression. Parce que je ne vois pas ma femme, je ne vois pas mes beaux-parents cacher cet enfant.
Mais les explications de Jean-Louis Turquin ne convainquent pas les enquêteurs. D'autant que son ton, vous l'avez entendu, son comportement, hyper calme, distancié, déstabilise. Comme lorsqu'il explique aux policiers, dans les jours qui suivent la disparition de son fils, qu'il doit retourner travailler parce que c'est important que son cabinet continue de fonctionner. Il n'empêche qu'en l'état, les enquêteurs n'ont rien pour inculper le vétérinaire. Aucun indice, aucune preuve matérielle. Et surtout, pas de corps, pas d'aveu et encore moins de mobile. L'enquête tourne en rond. Et c'est là que deux éléments aussi imprévisibles qu'improbables vont intervenir et offrir aux policiers un mobile et des aveux. Rien que ça.
J'attends qu'elle se réveille et qu'elle se lève enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elle prenne. Cette fois, je ne lui annoncerai pas la dernière. Et qu'attends, je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait enfin, si je le permets, déjeuner en paix. Demande-t-elle soudain, me feras-tu un bébé pour Noël?
Aujourd'hui, l'impossible affaire Turquin.
Affaire sensible sur France Inter.
Alors que les policiers piétinent et que sans plus de preuves, l'enquête aurait pu s'arrêter là, deux informations viennent bouleverser l'ordre des choses. Michel Turquin va offrir aux enquêteurs non seulement un mobile, mais leur servir des aveux sur un plateau. D'abord, elle explique que Jean-Louis n'est pas le père biologique de Charles-Édouard et que son mari est au courant depuis quelques mois puisqu'il a fait procéder à un test ADN en janvier 91. Le père biologique de l'enfant s'appelle Moïse Ber Edelstein, un ancien danseur juif américain qui vit comme un marginal dans les rues de Nice et que Michel a rencontré au cabinet vétérinaire quand l'homme lui a amené son chien. Voilà qui pourrait constituer le mobile de Jean-Louis. Se débarrasser de ce fils qui n'est pas le sien et qu'il a éloigné de sa femme. Et puis surtout, Michel a amené le vétérinaire à confesser son meurtre.
Il y a quelques jours, la mère de Charles-Édouard apportait à la police des enregistrements de conversations qu'elle aurait eues avec son mari. Conversations au cours desquelles il aurait avoué avoir tué son fils parce qu'il doutait que cet enfant soit de lui. La police recherche toujours le petit Charles-Édouard. Rien ne permet d'affirmer aujourd'hui qu'il est mort.
Alors que Michel leur a raconté que son mari lui avait avoué le meurtre, les policiers lui ont dit « Bien, mais s'il nous faut des preuves, vous pourriez l'enregistrer. » Et c'est ce qu'elle fait. Elle achète un petit micro qu'elle place dans son sac. Elle fixe un rendez-vous à Jean-Louis, à son cabinet, et elle lui dit « Si tu me dis tout, je reviens. » Et le vétérinaire s'exécute. Il avoue, il a étouffé et enterré l'enfant. S'il avait utilisé un canif, précise-t-il, il y aurait eu trop de sang. Sur la bande, on entend la voix de l'homme expliquer à sa femme qu'aujourd'hui, l'enfant est mieux là où il est, qu'il faut regarder vers l'avenir, que Charles-Édouard, c'est du passé. Le tout entrecoupé des cris absurdes d'un perroquet ou d'une perruche prise en charge dans le cabinet. Après ses aveux, Michel et Jean-Louis ont une relation intime. Michel Turquin ne se l'explique pas, c'est comme ça. Et pour les policiers, cette affaire prend définitivement une tournure glauque et tordue. Un mobile, des aveux, oui, mais sont-ils crédibles? Jean-Louis Turquin devient tout de même le suspect numéro 1. Et la nouvelle est reprise à 13h dans le JT d'Antenne 2.
Et puis à Nice, la ville est maintenant bouleversée par le rebondissement dans une affaire d'enfant disparu. Le père du petit Charles-Édouard, celui-là même qui lançait des avis de recherche, a été inculpé d'assassinat sur la personne de son fils. On remarquera que le corps de l'enfant n'a toujours pas été retrouvé et que le climat dans cette famille était pour le moins difficile.
Mais par la suite, jamais le vétérinaire ne va reconnaître une quelconque participation dans la disparition de son fils. S'agissant des aveux, s'il admet immédiatement que c'est bien lui qu'on entend sur l'enregistrement, il assure avoir simplement dit à sa femme ce qu'elle voulait entendre, pour qu'elle revienne. Parce que l'obsession de Jean-Louis, et il le reconnaît, c'est elle, c'est Michel. C'est presque comme si l'idée de leur séparation lui était encore plus insupportable que la disparition de son enfant. Et puis, oui, ils ont bien eu une relation intime. Ensuite, elle le draguait, elle portait un porte-jartel, c'est pas innocent. Donc oui, il a dit ce qu'il fallait pour faire revenir sa femme. Voilà, c'est tout. Admettons, mais le mobile. Pour le vétérinaire, là aussi, il y a erreur. Fils biologique ou pas, Charles-Édouard, c'était son enfant. À l'occasion d'une interview au journaliste Jean-Pierre Vergès pour Le Parisien, Jean-Louis Turquin dira de la filiation biologique « Je m'en fous, c'est lui que j'ai élevé, c'est devenu mon enfant. » Alors c'est vrai que ça n'a pas été agréable de l'apprendre. D'ailleurs, on s'est servi de ça pour dire que j'avais un mobile pour l'assassiner, mais totalement inventé. Toujours est-il qu'après une grève de la faim et 9 mois de détention provisoire, Turquin est remis en liberté dans l'attente de son procès. Nous sommes en février 1992. Et alors que les enquêteurs tentent toujours de retrouver le corps de Charles-Édouard, sans succès, le père reste persuadé que son enfant est encore en vie. Et il promet 10 000 francs de récompense à quiconque lui amènerait des informations permettant d'aider l'enquête. Là encore, sans succès, les mois passent et rien ne se passe. Il va donc falloir fixer une date pour le procès. Mais le juge d'instruction veut gagner du temps. Parce qu'il sait qu'une accusation pour assassinat sans cadavre, c'est plus délicat à soutenir devant les jurés. Le procès est finalement fixé en mars 1994. Enfin, c'est ce qui était prévu.
Coup de théâtre dans l'affaire Turquin. Le président de la cour d'assises a donc ordonné un complément d'information et une commission rogatoire internationale a été délivrée aux policiers israéliens afin qu'ils puissent interroger sur procès verbal les 3 fameux témoins. Des témoins qui affirment avoir vu l'été dernier en Israël le petit Charles-Édouard. Ces faits nouveaux sont intervenus à la suite d'une enquête effectuée par un détective privé engagé par Jean-Louis Turquin. Des recherches qui, après filature de Madame Turquin, vont conduire à la découverte près d'un kibboutz de 2 personnes qui reconnaissent formellement sur des photographies apportées de France Madame Turquin et Charles-Édouard qui seraient âgés de 11 ans. Un troisième témoin, une institutrice, aurait accueilli en 92 dans sa classe un garçon prénommé Charles-Édouard correspondant au signalement du garçon disparu.
La découverte de ces 3 témoins instille clairement le doute dans le public, dans les médias et pour les enquêteurs concernant la culpabilité du vétérinaire. Et malgré les battues, les fouilles autour du domicile des Turquins, mais aussi partout où le père aurait pu aller discrètement cacher un corps, le tout avec l'aide de la police et le soutien de la population locale, eh bien Charles-Édouard n'est toujours pas retrouvé. Et puis puis, le père biologique du garçon, ce marginal juif américain, connaissait des gens en Israël. Alors peut-être que c'est via ses contacts que Michel est passé pour y envoyer son fils et faire porter le chapeau à son mari qu'elle déteste. Et que dire aussi du fait qu'elle ne soit pas toujours allée déclarer la disparition, la mort de son fils à l'état civil ? Parce qu'elle sait qu'il est toujours vivant ? Malgré ces nouveaux éléments, Jean-Louis Turquin reste inculpé pour assassinat et la justice finit par fixer une nouvelle date au procès qui s'ouvre le 17 mars 1997. L'avocat général Didier Durand est persuadé de la culpabilité de l'accusé. Pour autant, il a conscience que son dossier est fragile. Si les aveux de Turquin constituent la pierre angulaire de son accusation, tout comme le fait qu'il dormait seul avec son fils le soir de la disparition, l'absence de corps constitue toujours une problématique majeure. Et l'avocat général le sait, ils ne sont pas nombreux les dossiers pour meurtre ou assassinat qui ont abouti à une condamnation sans qu'on ait retrouvé le corps de la victime. Michel Agnolet, le tueur d'Agnès Leroux par exemple, en était même tellement persuadé qu'il avait dit « Tant qu'ils ne retrouveront pas le corps, de toute façon je suis tranquille ». Peut-être que c'est aussi ce que dit Jean-Louis Turquin, ce qu'il se dit, qui arrive relativement serein à l'audience. Il se présente à son procès, rasé de près, avec une chemise à rayures verticales grises, veste à petits carreaux et cravate foncée à motifs. Quelque chose dans son attitude laisse penser qu'il est persuadé d'obtenir une relaxe. Mais de la diffusion de ses aveux jusqu'au témoignage farfelu des soi-disant témoins venus d'Israël, la défense des vétérinaires est sérieusement mise à mal. Compte rendu d'audience par nos confrères de France 3 Côte d'Azur.
Michel, je ne suis pas un assassin. Ça dure, Michel, c'était mon fils et je l'ai cherché depuis 6 ans. Jean-Louis Turquin clame son innocence en se tournant directement vers sa femme, Michel Ballanger, sur le banc des parties civiles. Turquin, 2 fois aujourd'hui, s'est expliqué, revenant sur les aveux qu'il avait faits à sa femme. Ce que je lui disais, ce n'était pas la vérité, c'était sa vérité et je lui disais parce que je voulais qu'elle revienne. Le mystérieux docteur Turquin, debout depuis le box des accusés, parle doucement, la voix chargé d'émotions, difficile de dire s'il est sincère ou pas, s'il interprète un rôle de composition pour émouvoir les jurés ou s'il parle du fond du cœur. L'autre point fort de la journée aura été l'audition du détective privé engagé par Turquin pour retrouver la trace hypothétique de Charles-Édouard. Cet enquêteur n'apporte aucune preuve formelle du passage de Charles-Édouard et de Michel Ballanger, sa mère, en Israël. Tous les témoignages présentés ont tourné court.
Si les premiers jours d'audience n'auguraient rien de bon pour l'accusé, la visite de la Bastide de Turquin par les juges et les jurés a fini de convaincre ces derniers de la culpabilité de Jean-Louis. C'est en particulier quand ils entrent dans la chambre que se partageaient le père et le fils que les derniers doutes sur la culpabilité du vétérinaire se lèvent. Parce qu'il n'y a aucune chance, au regard de la proximité des lits qui sont quasiment collés, mais aussi du volume sonore des grincements émis par la porte de la chambre quand elle s'ouvre, sans parler du loquet de la porte d'entrée qui semble particulièrement difficile à ouvrir pour un enfant de 8 ans, il semble n'y avoir aucune chance que le petit ait pu sortir sans réveiller son père. Verdict, Jean-Louis Turquin condamné à 20 ans de prison pour assassinat, 7 ans jour pour jour après la disparition de son fils. Il s'effondre dans la salle d'audience, parce qu'en 1997, il n'était pas possible de faire appel d'une décision de la cour d'assises. Voilà, on aurait pu croire que l'affaire Turquin s'arrêterait là, mais non. Un rebondissement vient relancer le dossier. Et là nous sommes le 7 juillet 1999, la nouvelle fait la une du journal de 20h sur France 2.
Jean-Louis Turquin attend ce moment depuis le verdict, le dépôt d'une requête en révision de son procès. Son avocat estime qu'il a les preuves que son fils Charles-Édouard est vivant, le vétérinaire est soulagé. Une récente enquête privée aboutit dans une école rabbinique qui abriterait un adolescent adopté.
C'est un garçon qui a le même âge que Charles-Édouard Turquin, c'est-à-dire environ 16 ans, qui se trouve en Israël depuis 8 ans, c'est-à-dire très exactement depuis l'époque de la disparition de Charles-Édouard Turquin, qui remonte au mois de mars 1991. C'est un garçon auquel on a dit qu'il ne pouvait pas rencontrer sa mère parce qu'elle n'était pas juive, à qui on a dit que son père serait mort en prison, Bref, autant d'éléments qui nous font indubitablement croire que cet enfant, c'est Charles-Édouard Turquin.
Cette piste qui semblait si prometteuse s'écroule quelques mois plus tard lorsqu'une analyse est réalisée. Une analyse ADN, bien sûr. Et les résultats sont formels. L'enfant retrouvé en Israël n'est pas Charles-Édouard Turquin. Donc, retour à la case départ, à la case prison pour Jean-Louis. Après 9 ans passés derrière les barreaux, le vétérinaire obtient une libération conditionnelle. Nous sommes en 2006 et entre-temps, il s'est remarié, en prison cette fois, avec Nadine, une professeure de fitness qui avait entendu parler de lui dans les journaux et qui avait pris contact. À sa sortie de prison, Jean-Louis continue à clamer son innocence et à vouloir retrouver son fils. Mais parce qu'il a peut-être envie de commencer une nouvelle vie avec sa nouvelle compagne, il décide de partir et de tout recommencer aux Antilles, sur l'île de Saint-Martin. Mais tout cela, c'était avant que Nadine retrouve le corps de Jean-Louis Turquin. Une balle dans le dos, gisant dans une mare de sang et d'éclats de verre. Aujourd'hui encore, le meurtrier de vétérinaire court. Entre-temps, Michel Ballanger, son ex-femme, est décédé d'une crise cardiaque. Quant au père biologique de Charles-Édouard, le marginal qui avait été l'amant de Michel, il est mort lui aussi, noyé. Son corps a été retrouvé dans le port de Nice. Des morts et des mystères, une absence de réponse à un crime ou une disparition. Pas de corps, pas de preuves, un assassin présumé, assassiné. Des situations qui forcément mettent à mal la justice quand elle n'a pas de réponse. Aujourd'hui, l'affaire Turquin. On en parle avec notre invité Jean-Pierre Vergès. Bonjour.
Bonjour Fabrice Douven.
Journaliste judiciaire, réalisateur. Alors on va finir le récit ensemble. Parce qu'on s'est arrêté à la mort de Turquin, 20 ans après la première affaire. C'est sa nouvelle femme, Nadine, hein, qui a été accusée de son meurtre. C'est cela et pourquoi ?
Bah écoutez, au départ, les policiers manquaient un peu de pistes, en fait. Et donc, tout naturellement, ils ont pensé à l'entourage familial. C'est souvent comme ça en matière criminelle. Et donc, voilà, ils se sont intéressés à Nadine. Et c'est vrai que Nadine, bon, depuis quelques temps, allait mal, quoi, en fait. Elle souffrait parce qu'en fait, Jean-Louis Turquin était quelqu'un de tyrannique, autoritaire. Il voulait avoir le contrôle sur ses mails, sur ses finances. Il lui interdisait quasiment d'aller voir ses petits-enfants en métropole. Donc, Nadine souffrait. En plus, bon, elle racontait que Jean-Louis avait des aventures. Et donc il y avait des infidélités, donc Nadine souffrait en silence et elle avait demandé le divorce quelques mois avant la mort de Jean-Louis. Voilà, donc pour les policiers, Nadine avait un mobile et il se trouve qu'en plus les policiers avaient donc découvert sur ses mains des traces de résidus de tir. Et donc au départ, on a pensé que évidemment c'était elle qui avait pu tenir l'arme. Voilà, mais après des contre-expertises, finalement, les experts débattaient, et puis finalement, ça a été jugé en appel devant la chambre d'instruction, qui a estimé que c'était pas suffisant pour condamner, enfin pour que Nadine soit encore soupçonnée et mise en examen. Donc finalement, elle a bénéficié d'un non-lieu. Il se trouve qu'en plus ce soir-là, bon, elle était absente, il y avait un anniversaire avec des copines, donc elle n'était pas présente. Bon, en rentrant, ça aurait pu peut-être se produire, mais en tous les cas, il n'y avait pas d'éléments assez forts, à part ces résidus de tir et ce mobile qui pouvait justifier de l'amener devant une cour d'assises.
Alors, à quoi a-t-on pensé alors, au niveau des hypothèses ? Est-ce qu'on s'est dit peut-être que ce crime a un lien avec l'affaire de l'enfant, 20 ans avant ?
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça a été une hypothèse. Bon, il se trouve que Michel Turquin était décédé 3 ans avant. Michel Turquin n'avait pas de frères et sœurs, n'avait pas de famille. Elle vivait en métropole. Jamais elle n'avait fait part de désir de vengeance. C'est une femme voilà, qui était introvertie, soumise, rêveuse, on pouvait pas trop l'imaginer commanditer un assassinat en métropole, surtout en un assassinat dans les Caraïbes, pardon. Et donc, ça paraissait, cette piste-là paraissait, du règlement de compte, paraissait difficilement tenable, en fait.
Et donc, on en revient au même point avec cette affaire. C'est comme un tonneau rempli de questions et presque vide de réponses.
Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a le dernier mystère, c'est où est Charles-Édouard. Enfin, vous voulez parler de l'homicide de Jean-Louis ou de...
Non, mais Charles-Édouard, on ne sait pas où il est. On ne sait pas si c'est vraiment son père qui l'a tué. On ne sait pas qui a tué son père. Enfin, c'est terrible. Il y a des affaires judiciaires qui ne sont pas très claires. Mais celle-là,
c'est clair que bon, c'est une affaire qui sort de l'ordinaire parce que il y a un double mystère puisque cet enfant n'a jamais été retrouvé. Il y a une vérité judiciaire puisqu'il a été condamné. Et puis après, bon, ben, il se fait assassiner aussi dans des conditions très mystérieuses. Alors, bon, finalement, l'hypothèse qui reste, c'est celle d'un cambriolage qui tourne mal. Vous le savez, Saint-Martin, c'est une île paradisiaque, mais c'est aussi une île où le taux de criminalité est assez fort. Voilà. Et donc, les gens un peu riches, les professions libérales peuvent être ciblées. Il y avait eu quelque temps auparavant un autre vétérinaire qui avait été attaqué. Et il se trouve que, sur la scène de crime, dans la maison de Jean-Louis Turquin, on a retrouvé un poste de radio qui avait été éventré. Et on sait que c'est là un vieux poste de radio, voilà, où il cachait ces quelques milliers d'euros. Donc, est-ce que finalement, c'est un ou plusieurs agresseurs l'auraient forcé à dire où était l'argent et que finalement, il serait rebellé? Bon, dans tous les cas, c'est l'hypothèse qui prévaut maintenant, faute d'autres pistes, en fait.
Alors, vous avez rencontré Jean-Louis Turquin, n'est-ce pas?
Oui, absolument, Jean-Louis Turquin. Bah, écoutez, ça a été une divine surprise. J'avais voulu le contacter pour mon documentaire. Il m'avait conduit de façon assez brutale. Et puis finalement, il regarde le documentaire et puis il me contacte. Il me dit « Ah ben, j'ai vu dans votre documentaire que ma femme était morte. » Et du coup, j'ai voulu savoir en fait qu'allait devenir son argent, son héritage. Et donc, j'ai découvert par... Oui, c'était... Jean-Louis Turquin était quelqu'un de très avare et très porté sur l'argent. Et donc, il me dit « Bon, ben voilà, j'ai découvert qu'en fait, Charles-Édouard, son décès n'a pas été déclaré officiellement. Alors, soit c'est le tribunal de Nice qui aurait dû le faire, soit c'est sa mère. En tous les cas, personne ne l'a fait. J'avais appelé le tribunal. Bon, on peut penser que c'est un oubli administratif. Mais Jean-Louis Turquin avait saisi ça pour dire, vous voyez, finalement, mon fils n'est pas mort. Et d'ailleurs, je voudrais savoir où va aller l'argent. Est-ce que cet argent va aller en Israël? En tous les cas, je ne veux pas que cet argent puisse revenir aux compagnons, aux derniers compagnons de ma femme. Voilà, et puis il disait que Charles-Édouard m'appelle, quoi, vous voyez, donc c'était, voilà, il ne lâchait jamais, en fait, Jean-Louis Turquin, c'est vraiment sa caractéristique, c'est un homme qui, vraiment, allait, ne lâchait rien et voulait gagner, quoi, c'était vraiment... Cette histoire aussi des Turquins, c'est le bras de fer aussi entre deux époux, même si elle, en fait, elle n'était pas, c'était pas une femme à vouloir comme ça la victoire à tout prix. Elle voulait avoir son fils, bon, mais lui, voilà, il voulait tout, il voulait l'argent, il voulait le statut social, et puis voilà, et il voulait pas perdre la face aussi devant sa femme.
Et vous avez eu le sentiment d'être devant quelqu'un qui avait une haute image de lui-même? Quelle impression?
Ah oui, Jean-Louis Turquin, c'est quelqu'un de très sûr de lui, hein. Il en impose, voilà, il continue à clamer son innocence, voilà, il avait saisi ce dernier truc, je dirais, pour dire qu'il était innocent, que sans doute son fils était encore vivant, alors qu'on pouvait penser que c'était simplement un oubli administratif du parquet, ou de la mère qui, bon voilà, il avait été reconnu coupable de son assassinat, bon, on oublie peut-être de faire une dernière formalité. Mais lui, non, il était là, il se défendait, il avait un avocat, bon, soi-disant ça allait peut-être être un motif pour demander une révision, enfin, voilà, le Jean-Louis Turquin qui n'avait pas bougé, qui même outre, alors que sa femme était morte, il voulait encore peut-être avoir le dessus sur elle, quoi.
Alors, qui veut continuer à se battre pour clamer son innocence? Après tout, il a été condamné sans preuve, on est bien d'accord?
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, il y a pas de preuve.
Il y a une intime conviction de la part de la justice. Donc, ça lui donne peut-être une légitimité pour dire mais je suis innocent. Et alors d'autant. Mais je ne sais pas si c'est important. On va en parler ensemble. Qu'un autre coup de théâtre est intervenu en 2004 quand un détenu, un certain Paul Boucher, explique que l'un de ses compagnons d'infortune lui a confié avoir fait tomber un notable de Nice, je cite, après avoir accidentellement renversé un garçon un soir, tiens donc, dans un quartier chic des hauteurs de la ville. Entendu par la procédure, il explique qu'il ne donnera le nom de cet individu que si on le libère de prison. C'est un chantage qui n'a pas fonctionné et le nom n'a pas été dévoilé. Quel est votre avis sur cette piste? Est-ce qu'elle est sérieuse ou pas?
Bon, vous savez, régulièrement dans les affaires criminelles, on a des témoignages de détenus qui ont soi-disant des révélations à faire. Leurs copains de cellule ont dit des choses, mais en fait, très souvent, ça s'avère faux, c'est du vent, ils veulent peut-être obtenir une réduction de peine. Bon, finalement, on l'avait mis devant le fait accompli, ce Paul Bouchette, et puis, voilà, il avait pas été capable de donner véritablement des éléments tangibles, quoi. Donc, voilà, cette piste n'a pas prospéré, quoi.
Jean-Pierre Vergès, vous n'avez pas assisté au procès, je crois, vous êtes arrivé sur l'affaire après, c'est ça ?
Oui, absolument. J'ai fait deux documentaires, mais quelques années plus tard.
Donc vous êtes quand même bien documenté sur ce qui s'est passé dans ce procès. Que faut-il en retenir, finalement ? C'était quoi les moments forts du procès ?
Oui, le procès, j'avais rencontré Didier Durand, qui était l'avocat général, et puis les avocats du dossier. Mm-hmm. Grosso modo, Jean Luther King s'est mal défendu. Il est apparu froid, distant, il n'a pas clamé son innocence. Ses amis disaient, mais bon, il pensait être libéré le soir même. Donc déjà, il y a son attitude qui lui a porté tort. Et puis ensuite, l'écoute de la cassette a été aussi fondamentale. Hein, c'est ce qu'a dit l'avocat général. Les gens étaient médusés. Comment, bon, ben, il y a le scénario, bon, assez invraisemblable, mais il y a le fond aussi. Et donc, comment imaginer faire revenir une femme en lui disant que son enfant est mort? Donc, bon, ça aussi, ça paraissait totalement abracadabrantesque. Et puis, bon, il y a le transport sur les lieux, effectivement, où on s'est rendu compte que dans cette grande maison à 22 pièces, c'était compliqué pour un enfant de s'enfuir. Et que Jean-Louis était vraiment le dernier à l'avoir vu. Et puis surtout, voilà, ce qui a aussi nui, c'est les témoignages des fameux Israéliens qui sont venus à la barre. Et puis en fait, ils sont fait démonter, je dirais, parce que leur témoignage était approximatif. Ils sont trompés dans les descriptions. Voilà, l'avocat général m'a dit, je les ai appelés. Enfin, il y avait un détective privé aussi qui était parti. Et bon, il m'a dit, je l'ai appelé Tintin au pays des kibboutz. C'est-à-dire, bon, voilà, on va tendre une photo d'un enfant. Il y a des gens qui disent, ah oui, peut-être. Effectivement, il ressemble. Enfin bon, mais il y a eu des vérifications. La police française est allée là-bas, les Israéliens aussi ont enquêté. Bon, on sait que Michel Turquin n'est allé qu'une fois lors d'un séjour linguistique en Israël. Michel Turquin, c'était une vétérinaire, c'était une brave femme de Nice, elle n'avait pas des réseaux criminels pour aller cacher un enfant en Israël, même si son amant Moïse, mais lui aussi c'était un homme bohème, un peu artiste, un peu dans la lune, donc bon, voilà, on a du mal à imaginer comme ça un réseau pour vont cacher cet enfant, d'autant plus qu'après, Michel, après le jugement, Michel est resté vivre en France, elle n'est pas partie en Israël, comment l'imaginer vivre séparé de son enfant, soi-disant caché en Israël, bon, ça paraît assez étonnant, quoi.
Donc, si j'ai bien compris, dans la mesure où il n'y avait pas de preuves réelles, les éléments à charge, lors du procès, ont été bien plus lourds que les éléments qui auraient pu instiller le doute sur la culpabilité.
Ah oui, clairement, la cassette, c'était vraiment le tournant du procès, quoi. Hein. Ouais. Les gens ont entendu. On peut penser ce qu'on veut des conditions, de l'obtention de ses aveux. L'avocat de Michel a dit, elle était en mission, c'est un sacrifice, elle s'est prostituée pour obtenir ses aveux. Effectivement, ça paraît on peut porter un jugement moral sur ce qui s'est passé, mais cette femme était désespérée, donc c'était son dernier recours. Et finalement, je pense que ça a fait pencher la balance en sa faveur, enfin, en faveur de Michel.
Ouais. Et Turquin a tenté de nombreuses procédures en révision. Aucune n'a abouti. Ça paraît presque logique dès lors qu'il n'y a pas vice de forme, puisque les enregistrements, on est passé dessus. Donc c'est logique qu'il n'y ait pas de révision, d'autant que la justice y regarde à deux fois avant
surtout pour avoir une révision, il faut un élément nouveau en fait, n'a pas été examiné. Et là, bon, soi-disant le truc de Bouchard, le témoignage du détenu, ça allait être un élément nouveau, mais finalement ils se sont fait retoquer par la commission de révision. Donc l'histoire aussi de l'enfant caché dans la yeshiva, ils ont essayé aussi de le monter en épingle, mais bon, finalement, tout ça, c'est des enquêtes privées, en fait. Hein, donc, voilà, ce sont des enquêtes qui n'ont pas la rigueur d'enquête policière. Donc, vous envoyez un détective, qui est charmant, mais bon, voilà, il va recueillir un témoignage. Les gens se sentent pas comme ça. C'est pas aussi sérieux que lors d'un interrogatoire de police. Bon, il y avait même un journaliste aussi qui, soi-disant, avait filmé le fameux enfant. Bon, mais à l'arrivée, cet enfant, c'était pas Charles-Édouard, quoi. Donc, tout ça, finalement, ça lui a causé du tort et ça s'est retourné contre lui parce que on a eu le sentiment qu'il souhaitait manipuler la justice, quoi. En fait, il voulait faire diversion et donc, voilà, il avait de l'argent, il pouvait se permettre de financer ses opérations coûteuses.
Qu'est-ce qui vous a intéressé finalement dans cette histoire ? C'est les chevaux de mystère ? Le millefeuille de mystère ? C'est ça qui vous...
Parce que vous avez fait... Moi, ce qui m'a intéressé beaucoup, c'était... Moi, ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est la relation entre Jean-Louis et Michel, en fait. C'est comment, peu à peu, s'est forgé comme ça ce bras de fer terrifiant. Et en fait, bon, c'est une histoire avec des thèmes aujourd'hui qui sont plus connus. On est avec une femme un peu sous emprise, on est avec un tyran domestique, on est avec un homme qui veut avoir le contrôle, qui veut dominer, qui était autoritaire. Il voulait sa Rolls, il voulait sa belle maison avec piscine, il voulait son tableau de Bernard Buffet, et puis sa femme aussi. Et voilà. Et elle est sortie, elle est touffée là-dedans. Oui. Et donc, elle a pas eu, voilà, il y a eu un bras de fer. Elle a voulu, elle s'est rendue compte. Il y a eu erreur sur la marchandise, je dirais trivialement. Oui. Ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre, quoi.
Bien, bah, écoutez, c'est assez de bonnes raisons pour s'intéresser effectivement à ce fait divers. Et on a fait deux documentaires. On est bien d'accord, c'est deux.
Oui, absolument. Le dernier pour l'émission Au bout de l'enquête sur France 2.
Parfait. Merci infiniment.
Merci de m'avoir invité.
Au revoir.